L'âge bête sur RCN.
Bienvenue dans l'âge bête sur RCN, il est 14h, cette émission est enregistrée depuis le lycée Marquette à Pont-à-Mousson. Bonjour tout le monde.
Salut.
Donc aujourd'hui nous écouterons Louise qui nous parlera de Dracula.
C'est ça.
Nous écouterons ensuite Tess avec le tyran Vlad III.
Exceptionnellement,
Antonin n'est pas là, mais son frère prend le relais et nous écouterons Margot avec ses plats typiques.
Oui, exactement.
Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc Louise, aujourd'hui tu vas nous parler de Dracula.
Exactement, c'est ça. Donc c'est un personnage à la base littéraire, descendant qui vient de romans d'origine. Pour devenir une vraie... qui, à la base, était littéraire, est devenue une légende pour tous, durant tous les siècles. Donc, on connaît tous Dracula comme le monstre du Loch Ness ou le Yeti, qu'ils appartiennent à cette catégorie créature mythique que l'on évoque sans même y penser. Il est là, dans notre imaginaire collectif, au point où on pourrait croire qu'il existe depuis toujours et qu'il vient d'un mythe ancien ou d'une légende populaire. Et pourtant, contrairement à Nessie ou au Yeti, Dracula n'a pas émergé du folklore, il vient d'un livre. C'est bien Bram Stoker, en 1897, qui a écrit Dracula, façonnant une figure puissante qu'elle s'est échappée des pages pour hanter le monde entier. Alors comment un simple roman a-t-il donné naissance à l'un des monstres les plus célèbres de l'histoire ? Donc c'est Dracula est pur produit de la littérature gothique, inspiré par des peurs de son époque. Il met en scène un vampire venu de Transylvanie qui menace l'Angleterre victorienne. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout ce que nous associons aujourd'hui au mythe du vampire, donc le château en ruine, la morsure qui transforme en créature de la nuit, la peur du soleil, l'ail, les pieux dans le cœur, tout cela vient du roman de Stoker. Avant lui, il existait des histoires de vampires, bien sûr. Le folklore européen regorgeait de récits de morts qui venaient hanter les vivants. Mais Dracula a organisé tous ces éléments en un mythe cohérent et puissant et a donné un visage et un nom à une personnalité à cette créature floue et dispersée dans nos légendes. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement au monstre du Loch Ness, par exemple, personne n'a jamais cherché à prouver l'existence de Dracula. Peut-être parce que c'est aussi un livre, mais cela ne l'a pas empêché de s'ancrer profondément notre imaginaire, au point où beaucoup de gens aujourd'hui ignoraient tout ce que c'était un livre.
Ouais, c'est vrai que Dracula, on le connaît un peu depuis toujours, ouais, oui. Il est avec nous, il y a même des films avec Hôtel Transylvanie, et
ouais,
pour nous...
Moi, quand on parle de Dracula, je pense directement au film.
C'est vrai que les films nous a tous marqués, je pense qu'ils sont bien ça. Les films.
C'est de là qu'on connaît vraiment tous les aspects, entre guillemets.
Ouais, c'est vrai.
C'est exactement la raison pour laquelle Dracula est devenu un mythe, c'est parce qu'il touche à des peurs universelles, en fait. Donc d'abord, il incarne l'étranger, l'inquiétant, l'intrus qui menace la civilisation. Au moment où de la publication du roman, la société britannique elle est marquée par des craintes liées aux migrations et à la montée de nouvelles idéologies. Stoker capte ces angoisses et les concentre dans son personnage. Dracula vient de l'Est, un territoire mystérieux et inconnu. Il arrive en Angleterre pour semer le trouble. Mais Dracula est aussi une métaphore de la transgression du désir interdit à une époque où la morale victorienne est très rigide. Le vampire incarne un fantasme de liberté et de danger. Il séduit ses victimes, les transforme, leur fait goûter à une existence où les règles n'ont peu ou plus d'importance, ce qui le rend aussi fascinant. Il est monstrueux mais irrésistible. Enfin, il y a une autre raison pour laquelle... C'est ça. Enfin, il y a une autre raison pour laquelle Dracula est devenu un monstre aussi intemporel. Il s'adapte à chaque époque. Il a été aristocrate, inquiétant dans le film de Bela Lugosi dans les années 30, un monstre sanguinaire dans le film de La Hammer des années 50, une figure romantique et tragique dans les années 90 avec Coppola, et même une icône queer ou féminine dans certaines interprétations modernes comme un mythe. Dracula change avec le temps tout en restant lui-même. Et c'est pour ça qu'on le connaît aussi bien aujourd'hui. Ce qui est fascinant avec Dracula, c'est qu'il est un monstre entièrement littéraire qui a dépassé son cadre d'origine. Si on demande à quelqu'un qui est Dracula, bah, comme vous savez, pour nous, c'est juste un monstre parmi tant d'autres. Mais là où Nessie repose sur des témoignages et des photos floues, où le Yeti alimente des expéditions scientifiques, Dracula n'a pas besoin d'aucune preuve pour exister. Il est partout dans les films, les jeux vidéo, les publicités, les costumes d'Halloween. Il n'est plus seulement un personnage, il est vraiment une idée, une ombre omniprésente qui continue de nous hanter. Et c'est peut-être la véritable force de Dracula. Il est né d'un roman, mais il est également devenu une légende. Donc en conclusion, c'est un simple personnage de fiction qui est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, un mythe, un symbole, un reflet de nos peurs et de nos désirs. Ce qui est certain, c'est que plus d'un siècle après sa création, Dracula est toujours vivant. Et à mon avis, ça va continuer de l'être.
Ouais, je pense qu'ils vont refaire plusieurs adaptations et même les Hôtels Transylvanie, ils ont tellement bien marché que...
Oui, c'est ça. Vraiment.
Puis
ça,
Dracula, c'est un peu le symbole, genre à Halloween par exemple.
Ouais.
Dracula, c'est un déguisement simple, mais qui fait peur.
Rapide et, du coup, et qui est toujours
dans...
C'est
un truc qui va durer dans le temps parce que c'est un personnage physiquement simple, mais qui a une histoire. Et c'est ses symboles, genre les dents.
Et même les plus petits connaissent globalement l'histoire sans voir les
après,
détails.
À partir du moment où un monstre, il s'inscrit, enfin une légende s'inscrit dans le mythe, un mythe, ça parcourt les... Parce qu'actuellement, le roman, il date de l'époque victorienne, donc ça remonte. Et pourtant, au final, on a encore les mêmes peurs, hein, les peurs de l'étranger, des autres.
Les peurs des l'ail aussi, là. Moi aussi, j'ai trop peur de l'ail. Hein.
L'ail...
Je suis peut-être un vampire, en fait.
Bah, bon, alors, je pense qu'au niveau du désir, c'est pas comme c'était à l'époque victorienne, mais on revient aussi, c'est les traditions, les mœurs, elles changent pas vraiment, elles évoluent, mais on reste quand même sur les mêmes peurs.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Eh ben merci Louise, on aura appris plein de choses et maintenant on passe à Tess. Tess, tu vas nous parler aujourd'hui du tyran Vlad III.
En effet, eh ben, comme Louise vient de vous expliquer, Dracula c'est un personnage de fiction donc créé par Bram Stoker, mais qui est quand même inspiré d'un personnage qui a réellement existé, qui est Vlad III, donc plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur ou Vlad Dracul, donc pour Dracula du coup.
Okay. Ouais.
Donc c'est une figure historique complexe qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Europe de l'Est. Il naît en 1431 dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie.
C'est un vrai personnage, on est
d'accord. Oui, c'est une vraie personne. Donc il appartient à une branche de la famille royale de Valachie. Valachie, c'est une région située au sud de la Roumanie. Son père, Vlad II, était membre de l'Ordre du Dragon, un ordre chevaleresque, d'où le surnom du coup Dracul, ça signifie le dragon.
Ok. C'est tout.
Donc le destin de Vlad III, il est marqué par une enfance troublée et une quête de pouvoir impitoyable. En 1442, alors qu'il n'est qu'un enfant, Vlad et son frère Radu ils furent pris en otage par l'Empire ottoman. Donc c'était une manœuvre diplomatique destinée à contrôler les royaumes voisins. En fait, il y avait vraiment une guerre entre les Ottomans et la Valachie.
Il n'a pas eu une enfance facile. Hein.
Non. Et du coup, Vlad et son frère là-bas, ils étaient torturés. Et c'est ça qui a développé aussi sa haine contre les Turcs et les Ottomans. De retour en Valachie, il prend le trône en 1456 après avoir éliminé ses ennemis, souvent par des moyens brutaux. Son règne, il dure 6 ans. Il est marqué par une lutte constante pour protéger son royaume des invasions extérieures et de la corruption intérieure. Donc Vlad III, c'est quelqu'un qui est très paranoïaque. Donc pour lui, tout le monde l'espionne, tout le monde risque de détruire son royaume. Donc il tue beaucoup de personnes parce que pour les vols, pour les incendies, les gens ils sont condamnés à mort.
Ah ouais, ça rigole pas avec lui. Hein.
Voilà, donc il emploie des méthodes qui sont terrifiantes pour maintenir l'ordre et la discipline. La plus fameuse et la plus connue de ces méthodes, c'est l'empalement. Donc c'est un supplice cruel où ses ennemis ils étaient littéralement empalés sur un pieu.
Oh, c'est horrible. La douleur.
Ah, oh, ça me dégoûte.
Ouais.
Donc ce traitement assez brutal, ça fait de lui une figure légendaire qui alimente des histoires de cruauté qui se mêlèrent à la mythologie et à la terreur. Selon certaines estimations, on aurait entre 40 000 et 100 000 personnes qui meurent de cette manière-là sous son règne à lui. Donc
ah
en 6
ouais.
ans.
C'est énorme.
Oh. En 6 ans, autant ouais, en 6 ans, c'est pas... ça fait beaucoup. Donc Vlad III, il était quand même pas simplement un tyran sans but. Lui, il cherchait vraiment à instaurer un gouvernement fort et ordonné et il défendait son pays contre les invasions ottomanes. Après, on va pas dire que c'est une bonne personne non plus, mais voilà.
Il avait un vrai but.
Voilà. Notamment, du coup, il a défendu il s'est battu contre les Ottomans dans la bataille de Vaslui en 1475. Et du coup, ils ont infligé une grosse défaite aux Ottomans. Et c'est là que son nom il est devenu synonyme de résistance, mais aussi de terreur. Ce qui revient un peu dans le mythe aussi. Sa réputation, du coup, elle va se diffuser au-delà de la région et la peur qu'il inspire, elle contribue à façonner la légende de Dracula. Donc, un vampire immortel, donc vraiment un personnage qui contrôle tout, vraiment tout le temps et tout.
Qui a peur du feu.
Qui a peur du feu. Ouais. Voilà. Donc, bien que le personnage du coup de Dracula, c'est une figure de fiction, l'image de Vlad l'Empaleur dans l'imaginaire collectif, en fait, ça en fait l'archétype d'un tyran impitoyable, quoi. Voilà. Et du coup, les actions de Vlad III, ça sert de fondement à la mythologie des vampires. Donc, de tout après, tout ce qui se passait après sur les vampires et tout, on s'inspire aussi de ce personnage-là.
Oh, c'est bien, je savais pas.
Donc voilà. Lui, il meurt en 1476 dans des circonstances mystérieuses et son héritage, on sait pas trop quoi. Genre, c'est un peu... ouais. Tout est un peu mystérieux.
On sait pas comment il est mort.
Bah, c'est tout ce qui alimente le folklore, ouais, en fait.
C'est pour ça. Et le fait que du coup, le vampire après soit immortel et tout, ça alimente en fait tout ça. Donc après, on voit que pour certains, c'est un héros de la résistance contre l'Empire ottoman, c'est ce que je disais. Mais pour d'autres, c'est un monstre sanguinaire, etc. En tout cas, une chose est sûre, il reste une figure incontournable de l'histoire médiévale par sa brutalité et par sa détermination. Et la légende de Vlad III et la légende de Dracula, ça va continuer de fasciner et de terrifier encore, je pense, pendant longtemps.
Tu m'étonnes. T'as vu comment il tue les...
Vlad III, mais effectivement, ça va terrifier.
T'as vu comment il tue ses ennemis ? On se rappellera du longtemps. Eh ben, merci Tess. On aura appris plein de choses. C'était super intéressant. Nous revenons après une courte pause musicale. Nous écoutons Show Me Love. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Don't need nobody, just need your body. Show me love so sweet like honey. Don't need no talk. Your body, yeah, yeah. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. With the sun in our eyes. Show me love, don't need no money. Don't need nobody, just need your body. Hey, hey. Show me love so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Hey, hey. Dans l'âge bête sur RCN, il est 14h14. Nous allons maintenant faire un quiz de culture générale avec toutes nos chroniqueuses. On commence avec Margot.
Oui, alors c'est parti. Première question. Qui était le président de la République lors de la promulgation de la 5e République ? Et si vous avez la date, c'est encore mieux.
Charles de Gaulle, non ? Non, c'est... Non.
Alors
c'est
déjà la date, oui. Environ en quelle année ?
Proclamation de la 5e République.
Donc 5e République.
C'est avant Jacques Chirac.
Donc c'est 1980.
Est-ce que c'est avant ou après Valéry Giscard d'Estaing ?
Je sais pas.
Tu sais très bien, Margot. T'as une idée, Tess ?
Non, je sais pas du tout.
Peut-être avec Charles de Gaulle, hein.
Ouais, moi je sais pas, moi j'aurais dit Charles de Gaulle, mais.
Première hypothèse sur le nom, Charles de Gaulle.
Ouais.
Vas-y, c'est Charles de Gaulle.
Ah, parfait.
Et l'année, vous donnez votre langue au chat ?
Ouais, 1900.
Bah,
70.
Ouais, 60, 70.
Ouais.
Peut-être même avant.
65, peut-être.
Bah, après la fin de la guerre, c'était en 45, donc moi je dirais 48, 49, 50, quoi.
Ah ouais, ouais.
Je sais pas.
Ouais. T'as donné toutes les dates. Donc, ouais, je pense que c'est entre 1900 et 2000, je pense.
Ouais, ouais, je crois que j'irai dans les années 50.
On
ouais.
est dans la bonne fourchette. C'était 1958.
Oh, ah ouais, ouais. Donc quand même, j'ai dit 1980 au début, donc...
Voilà, on était à peu près. Mais Charles de Gaulle, du coup, Tess avait la bonne intuition. Vas-y, bah, parfait, à ton tour.
Alors, dans quelle légende ? Dans la légende arthurienne, quel objet sacré les chevaliers de la Table Ronde recherchent-ils ? Oh.
Alors, juste comme ça, je sais pas.
Est-ce que vous voulez des exemples ?
Ouais, ouais, on veut bien.
Il y a Excalibur, la pierre philosophale, le Graal, l'arche d'alliance.
Alors, tu peux répéter ta question,
oui,
s'il te plaît.
Alors,
ta question,
du coup.
Dans la légende arthurienne, donc avec le roi Arthur et
oui.
tout, quel objet sacré les chevaliers de la Table Ronde recherchent-ils ? Excalibur, ah bah, Excalibur,
l'épée d'Excalibur,
la pierre l'Excalibur. Philosophale, le Graal ou l'arche d'alliance.
Mais c'est pas le Graal ? Le Graal ou le truc d'Excalibur ?
Moi, je dirais Excalibur parce que dès que je pense à Arthur et tout...
Ouais, moi aussi, Excalibur.
C'est la plus connue, donc je pense
vas-y,
que...
Ouais.
Eh ben non, c'est la quête du Graal. Excalibur,
ah,
c'est Arthur
merci,
qui retrouve, qui, a, qui va chercher l'épée. Et en plus, normalement, il la cherche pas vraiment, il la trouve surtout. Mais c'est, le Graal, c'est vraiment la quête. Et d'ailleurs, c'est devenu une expression...
ouais, c'est vrai.
Le Graal ultime, c'est la quête ultime, en fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, t'as raison.
C'est à moi du coup.
Oui.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Tess ?
Alors, moi, je vais vous poser une petite question de géographie. Alors,
dis-nous
est-ce
tout.
Que vous connaissez le plus grand archipel du monde en nombre d'îles ?
Oh. Peut-être près des Philippines ?
Ouais, il y en a beaucoup des îles. Hein.
Près des Philippines. Vous pouvez me donner un pays ? C'est peut-être plus simple avec un pays. Genre, à côté de quel pays ?
Bah, des Philippines.
Je sais pas, c'est où les Philippines ? C'est en Océanie.
Ouais.
Oui. Ah non, c'est pas là.
Peut-être les.
Moi, ouais, c'est une bonne
les
question.
Les Caraïbes.
Ouais, il y a moyen les Caraïbes.
Oh. Attends,
on
c'est une
nul.
Sacrée question.
De toute façon,
en vrai.
Toutes les questions en géographie, on est super nuls.
Mais je sais que. Ouais, près de la côte américaine, il y en a beaucoup aussi.
Ouais. Entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Ouais.
Mmh. Et bah, c'est toujours pas là.
Ah. Et du coup les Caraïbes non plus tu valides pas ?
Non tu valides pas.
Ah ou alors genre la Norvège. Je sais qu'il y a beaucoup de fjords.
Ouais c'était
trous,
tu te rapproches.
Oh,
tu te rapproches
idée.
Bien. Bah... C'est pas la Norvège c'est
la Finlande ?
Non toujours pas.
La Suède ?
Oui la
ouais.
Suède.
Ouais, Suède.
Okay, est-ce que vous avez une idée du nombre d'îles qu'a la Suède ?
Une vingtaine. De...
Ah, ouais, moi, je dirais une centaine. Hein.
Une soixantaine.
Ah, ouais,
beaucoup
ouais,
beaucoup plus. Hein.
Oh. Ah ouais à ce point.
Bah les enfants.
1000 ?
De quoi plus ?
Attends, il a dit 1000. Encore
dit
plus
mille.
Que 1000 ?
Oui.
Oh,
5000
je crois.
Non. Ah, mais c'est super. Mais en fait, si les îles, elles sont toutes petites, ça va vite.
Oui,
hein.
C'est ça.
Bah, c'est
en
vrai.
Soit, les îles,
oui, une île, ça peut être juste un...
Un petit îlot,
ouais. Oui, voilà, c'est un crayon qui ressort de l'eau.
Donc, tu saurais nous dire à peu près, il y a combien d'îles ?
Il y en a... Il y en a 200 000. De ce qu'on a trouvé. Donc 200 000 toutes petites îles, en fait.
Ah,
peut-être un peu plus,
ah,
même.
Ouais, mais j'avais dit 20 au début.
Ouais,
moi j'avais dit 60.
Moi j'en étais à 100.
Ah ouais, ouais. Mais...
Youpi.
Voilà. Après, à moins que contre-indication, mais normalement, on en a un peu plus de 200
okay,
000
okay,
îles.
Oh mon dieu.
De toute façon, la question de géographie, on est tout le temps nuls,
voilà.
Ça change pas.
C'est ça.
C'est fou,
on
ça.
T'écoute, Margot.
Ok, prochaine question. Qui détient le record du monde du 100 mètres masculin ? Et son temps, si vous l'avez.
C'est Usain Bolt.
De base, ouais, mais ça se trouve, elle nous piège.
Moi, je dirais Usain Bolt.
Du 100 mètres... 100 mètres,
100 mètres sprint. C'est bien Usain Bolt.
Oui, du coup.
Et est-ce que vous avez le
un 100
mètres temps
en moins de 5 secondes,
fourchette.
Je pense. Non,
ouais,
j'abuse.
Je pense 7 secondes, quelque chose. Hein. 100 mètres, c'est pas beaucoup. Il court vraiment vite.
Moins de 10 secondes.
Il me semble que c'est 7 secondes 4, un truc comme ça. Je
c'est
les avais
moins
dans les
de 10 secondes, oui.
Ouais,
je les avais dans les exercices de physique chimie. Je crois que c'est 7 secondes.
Et bah, vous pensez que c'est beaucoup trop rapide parce que c'est 9 secondes 58.
Ah.
Mais déjà, 9 secondes 58, essaye de les faire les 100 mètres. Hein.
C'est compliqué de passer en dessous des 9 secondes.
Ouais.
Hein. Déjà des 10, alors imaginez 7 secondes.
Ouais, c'est vrai que.
Déjà, Usain Bolt était surhumain, alors là, je vous en parle pas. Vas-y, à toi, Louise.
Alors, quel est le véritable nom du monstre Frankenstein dans le roman de Mary Shelley ?
Ouais.
Oui. Donc Adam, Victor, il n'a pas de nom, ou Boris.
Boris.
Ça dit quelque chose, Boris?
Bah dans la famille Adam, il dit
il son s'appelle
nom.
Boris.
En fait, les trois me disent quelque chose.
Oui. Ah. Mais en fait, oui, c'est vrai que les trois me disent quelque chose aussi.
Je pense qu'elle
a fait
exprès d'ailleurs.
Bah oui. Sinon,
ça se trouve, il a pas de nom tout court.
Moi, je sais pas.
Non, moi, je dis Boris.
Moi, j'aurais dit Victor plutôt, mais.
De base, c'est une création. Donc, est-ce que la création a un nom?
C'est une créature, un monstre.
Ouais.
Une créature,
mais hein, il a été fabriqué Frankenstein.
Ah.
Donc il avait pas
son nom, c'est Frankenstein, et chaque personne s'approprie un prénom.
Ou je sais pas si la créature.
Moi
a
je dis Boris,
nom,
je reste sur ma première impression.
C'est le nom de Frankenstein, je crois que c'est le titre. Donc vous savez pas, vous dites.
Non,
vous
non
vous
on ne sait pas.
Vous donnez une réponse.
Bah, moi j'ai dit Victor.
Moi j'ai dit Boris.
Et moi je dis qu'il n'a pas de nom.
Et bah c'est ça, il a pas de nom.
Ah tu vois.
C'est une créature et donc.
Ouais, donc en soi le créateur il avait pas forcément prévu que ça se passe comme ça.
Ouais, c'est les personnes d'après qui m'ont adapté. Ouais. Ou alors ça se trouve on délire.
Non, non, ça a jamais eu de nom.
Ah ouais, on délire.
Ok. Et bah du coup je vous pose une dernière question. Est-ce que vous connaissez le nom du héros grec qui a tué le Minotaure?
Oh, c'est connu aussi, ça.
C'est,
donc, déjà, on récapitule le Minotaure.
Vous donner des petites propositions sur préférées.
C'est quoi déjà le Minotaure?
Le Minotaure, c'est celui qui a qu'un seul œil.
Non, c'est une
C'est celui qui a un seul œil et il me semble que c'est celui qui fait l'Odyssée.
Donne-nous des propositions, s'il te plaît.
Ulysse.
Et le Minotaure, c'est pas celui qui a un seul œil, c'est celui qui est mi-homme, mi-taureau.
Oui, voilà, j'allais dire que c'était un
taureau. C'est le
cyclope, l'autre. Ça, c'est le
cyclope. Pose des... Mets des propositions, du coup.
Donc, soit Thésée, Persée, Ulysse ou Héraclès.
Persée.
Persée,
je dirais.
Et ben non, c'est Thésée.
Thésée, ok.
Purée, on est vraiment nuls.
Ouais, mais en vrai, c'était super. J'ai bien aimé le format. On a appris plein de choses. Et nous revenons après une courte pause musicale. On écoute Boys Don't Cry de The Cure.
RCN, l'âge bête.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN, il est 14h24 et nous écoutons maintenant Margot avec ses plats typiques.
Oui, alors on va faire un petit tour du monde avec les plats typiques. Donc commençons par l'Asie. Est-ce que vous connaissez le plat typique du Japon par exemple?
C'est des ramen.
Faut pas se tromper là, ouais. Sinon on va avoir l'air bête.
C'est des ramen, c'est de la nourriture à base de riz et à base de poisson.
Ouais, c'est
d'eau
beaucoup
et de poisson.
C'est beaucoup riz et poisson.
Riz, poisson.
Et il me semble
t'as
que
dit quoi,
Tess?
Les sushis?
Ouais.
Je voulais pas dire parce que j'hésitais
entre
Japon et
Chine. Mais moi aussi j'étais pas sûre, mais oui.
C'est japonais, mais est-ce que c'était le plat le plus typique?
Du coup, c'est un plat composé principalement de riz vinaigré, de poisson cru et parfois de légumes. C'est pas un plat simplement un repas, c'est un art. Vraiment, au Japon, c'est
il y en a plein de différentes sorties d'enfants, surtout.
C'est pareil, il y a plein de cultures où, par exemple, on peut pas demander de la sauce quand on va au Japon parce que c'est très mal vu, en fait. C'est-à-dire que le chef n'a pas réussi suffisamment bien.
Ah, c'est vrai?
D'obligé de racheter de la sauce, alors qu'aujourd'hui...
C'est vraiment une compétition de savoir faire des sushis.
Ouais. Mmh. Ouais, avec les feuilles, les algues, le riz, bien, surtout que ça s'écroule des fois, c'est super difficile.
Exactement. En Corée, par exemple, est-ce que vous connaissez le plat emblématique?
Je ne connaissais pas.
Non.
Corée.
Non.
Ça s'appelle le kimchi. Donc, c'est un accompagnement fermenté à base de chou, de radis et de piment.
Okay.
C'est un plat fait à partir... Enfin, qui fait partie intégrante de chaque repas, genre, et sa préparation, elle est souvent un événement familial à l'automne, comme la choucroute en France, enfin dans l'Est en tout cas. Voilà. Passons maintenant à l'Amérique latine. Pour le Mexique.
Les faritas.
Les quesadillas.
Presque.
Les tortillas.
Presque. Un peu plus.
On a sorti tous les mots en as qu'on se connaissait.
Les trucs avec du piment.
Il n'y a pas de as, c'est os. C'est tacos.
Burritos.
Les tacos.
Ah
ouais,
les tacos.
Ouais, tacos, c'est super cool.
C'est un petit paquet de bonheur garni de viande, de légumes, de salsa et de guacamole qui représente plus qu'un simple repas de rue là-bas.
Ouais.
C'est vraiment familial, une grande tablée avec tout ça.
T'en as même des végétariens d'ailleurs, j'avais étudié ça en espagnol.
Ouais,
qui peuvent mettre. En soi, tu peux mettre ce que tu veux.
Tout, en fait,
tu peux mettre ce que tu veux dedans.
C'est ça, c'est vraiment familial, tu mets tout et tu fais ton propre tacos. Mais ça se cuit pas comme les fast-food en France, les tacos, c'est vraiment.
Oui, c'est complètement différent.
C'est plié en fait là-bas. Ouais. Et en Argentine, est-ce que vous connaissez?
Alors, Argentine, plutôt.
Moi, j'aurais pas su.
Non, je sais pas.
C'est l'alçado. En fait, c'est un barbecue traditionnel qui rassemble la famille, les amis et tout, avec des viandes grillées, accompagnées de chimichurri à base de persil et d'ail, en gros. Alors maintenant, faisons un petit tour en Europe. Est-ce que vous connaissez le plat typique de la Pologne?
Je sais pas, ça doit être quelque chose avec du chou et des saucisses.
Ouais, de la choucroute.
Non, je pense pas.
Non, c'est pas de la choucroute, c'est pas du tout à base de chou. Ça s'appelle les pierogi. C'est des petites ravioles farcies de viande, de pommes de terre, de fromage ou même de fruits.
De fruits, carrément?
Mais vraiment, mais c'est une dinguerie. Mais c'est servi vraiment dans tout le pays, c'est vraiment connu. Chaque région a sa propre version du plat, un peu comme partout. Chaque spécialité un peu varie. En fonction.
Ouais.
Maintenant, passons à la Slovénie. Est-ce que vous connaissez? C'est vraiment un nom...
Non.
Là, on est un peu trop loin, je pense.
Ça s'appelle Idrija. Voilà. Il y a beaucoup de I et de J. Attends, c'est même pas fini. C'est Idrija Zlokrofi, mais vu que je sais pas le prononcer...
Ouais, on va s'arrêter à Idrija.
Voilà. C'est une spécialité vraiment méconnue, mais délicieuse. C'est des petites pâtes farcies de viande, un peu comme des raviolis, mais en fait, là, c'est une sauce de ragoût de viande, en fait, et tout. Et voilà, c'est vraiment typique des montagnes slovènes.
Ça donne trop envie.
Ouais, ça a l'air trop vraiment.
Là, on a de nouveau faim.
J'adore les raviolis en plus. Et au Portugal, est-ce que vous connaissez le nom ou pas? Ou
alors,
ça, c'est quoi?
C'est une sorte de petit pain et ils mettent plein de choses dedans. Je sais
non,
plus
moi j'aurais
s'appelle.
Dit les pastéisténaté.
Non, je sais pas ce que tu vas sentir.
Je crois que c'est des sortes de petits pains comme
non,
ça.
Non, c'est pas ça. C'est le bacalao avec un H entre le L et le O. C'est des morues salées en fait.
Des morues.
Voilà.
Ça occupe vraiment la place centrale de la cuisine traditionnelle. C'est un poisson. Il est préparé de mille et une façons. Mais on dit qu'il existe 365 recettes pour le cuisinier, une par jour de l'année. Voilà, petite anecdote sur ça. Et voilà. Bon, après, on n'oublie pas la Belgique, le moule frites habituel, cuisiné de toutes les façons. Et je pense qu'on a fini sur
revisité par l'entièreté des pays.
Vraiment. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fini pour ma part.
Et bien, merci Margot, tu nous as encore donné faim et surtout, tu nous as fait voyager, c'était super. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique radio. Merci tout le monde pour vos chroniques, c'était super, on aura appris plein de choses. Ça sera Elsa qui animera la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Salut.